On n'a pas suivi le principe d'isoclaste. On a gardé les choses ardues et difficiles pour la fin, puisque ce dernier panel, ce dernier table ronde, est consacré à des questions dites d'éthique fondamentale. Vous savez peut-être qu'au CREUM, il y a un certain nombre d'axes. 5 pour le moment. Le vice-doyen hier me disait qu'il voulait me suggérer 2 autres. J'ai pas eu le temps de discuter avec lui, j'ai pas le moindre idée. Très curieuse de savoir ce qu'il va me proposer. Enfin, pour le moment, il y en a, je crois, 5. Il y en a un qui est dit d'éthique fondamentale. C'est l'axe dont je suis responsable. Et je voulais dire un ou deux mots au sujet de ce que c'était d'éthique fondamentale, parce que très franchement, c'est pas un concept qui est transparent, complètement transparent. Dans l'introduction à la section consacrée à l'éthique fondamentale du dernier numéro, je plaisantais un peu, je disais parfois on qualifie la philosophie comme la discipline qui s'occupe des questions trop difficiles pour les autres disciplines. L'éthique fondamentale, c'est celle qui s'occupe des questions trop difficiles pour les autres domaines de l'éthique. Donc si vous avez des questions qui ne vous plaisent pas, il faut toujours venir et nous les donner, on occupera pour vous. C'est ça l'idée. L'éthique fondamentale ratisse très large, il y a beaucoup de questions trop difficiles. Ça couvre à la fois dans l'esprit, la conception que nous en avons au CREUM, les questions méta-éthiques, l'objectivité du jugement, des choses comme ça, jugement moraux, et les questions d'éthique normative, qu'est-ce qu'il faut faire ici, là. Donc c'est vraiment très vaste, et en invitant nos panélistes, j'aurais proposé de nous dire quelque chose sur l'avenir de cette chose-là, l'éthique fondamentale. C'est un défi qui est peut-être un peu ridicule, vu que c'est se prononcer sur autant de questions à la fois. C'est en tout cas la tâche qu'ils vont essayer d'accomplir aujourd'hui. Donc, nous dire quelque chose au sujet de l'avenir de l'éthique fondamentale, de ces différents champs de questions. Quelle serait la question, les questions qui devraient être traitées ou qui pourraient être traitées durant les prochaines années. Au niveau du format, ça va être un panel bilingue. On aura deux présentations, je pense, en anglais. Et on va commencer avec la présentation de Ruven, qui est un des deux auteurs des articles qui sont publiés dans le dernier d'études, dans son numéro spécial, pendant une trentaine de minutes, suivi d'une brève discussion. Et ensuite, on va passer à travers les différents tables rondistes. Et je vais vous présenter à chaque fois, juste avant qu'ils prennent la parole, chacun d'entre eux. Ruven est un ami de longue date du CREUM, ça fait bien longtemps qu'il vient, presque annuellement, on invite à s'arranger régulièrement à Montréal. Et donc il était invité du CREUM depuis le début du CREUM, il est directeur de recherche au CNRS, membre du centre de recherche Sens, Éthique et Société. Je suis contente de comprendre en France cet acronyme.
Oui, bah, tu m'expliqueras.
Et c'est quelqu'un qui représente bien en fait les intérêts de l'axe éthique fondamentale, parce qu'il a travaillé à la fois sur des questions vraiment de méta-éthique. Je rappelle le livre qu'il a dirigé il y a un certain temps, du réalisme moral au Presse universitaire de France, mais il s'est aussi intéressé à toutes sortes de questions d'éthique normative, comme ses travaux sur l'éthique minimale qu'on trouve dans l'éthique aujourd'hui. La liste de ses publications est longue, il se trouve sur le web, je ne vais pas le détailler. Je voulais simplement annoncer deux livres qui sont à paraître, un sur l'amour chez Grasset, un autre sur la liberté politique chez Gallimard. Et sans plus tarder, je te passe la parole.
Merci pour cette invitation, merci pour cette présentation. Hier, Daniel, dans sa présentation, nous a dit que le CREUM aurait pu s'appeler la crêpe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, je trouvais ça assez drôle. Bon, je ne sais pas s'il aurait eu le même succès s'il avait porté ce nom. Mais enfin, ça n'aurait pas été une menace existentielle. Il aurait continué à vivre. Mais ce qu'il a dit après était un peu plus inquiétant, parce qu'il a dit que le CREUM aurait pu ne pas exister aussi. qu'au moment où le Créum a été créé, la tendance n'était pas à financer ce genre d'institution, mais c'est un coup de bonne fortune morale, un petit moment où ça a pu se faire, qui fait que le Créum donc est né, le Créum est créé. Et en fait, je ne sais pas, ça m'a donné un coup d'inquiétude rétrospective. Je me suis demandé, mais comment le monde aurait-il été si le Créum n'avait pas existé? Alors je pense que le monde aurait été bien moins bien, en général. Et puis je me suis aussi posé la question, bon c'est un peu plus, il ne faudrait peut-être pas que j'en parle en public, c'est une question personnelle, qu'est-ce que j'aurais été moi si le Créum n'avait pas existé, si je n'étais pas venu à Montréal, etc. Et puis j'ai arrêté tout de suite parce que je me suis dit que ça serait tellement atroce, je ne pouvais même pas y penser. Voilà, donc je vais parler de questions. Donc je ne sais pas si c'est d'éthique fondamentale, puisqu'au fond, ce n'est pas des questions si difficiles que ça. Dis-moi, j'espère que c'est difficile. Mais c'est, je reprends un peu le texte qui est dans la magnifique revue, d'ailleurs. Et avec quelques petites modifications, donc vous avez eu à peu près le texte. Alors, dans ce texte, que je supposais, c'était qu'un des problèmes, un des défis intellectuels auxquels la philosophie morale sera probablement confrontée dans les années à venir, je ne vais pas dire exactement combien, peut-être deux après tout, mais enfin peut-être beaucoup plus, l'un des plus importants, à mon avis évidemment, concernera le rôle épistémologique des intuitions morales en éthique normative. C'est-à-dire la place des intuitions dans la justification des théories qui nous disent ce qui est désirable ou indésirable, ou ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et j'ai laissé de côté complètement la question du rôle des intuitions en méta-éthique, où il me semble à première vue moins important. Si vous prenez par exemple le débat sur le réalisme moral, bon, il mobilise probablement des intuitions de chacun et de tout le monde sur le point de savoir s'il y a du sens à dire que certains de nos jugements moraux sont vrais ou faux. Mais si vous vous intéressez vraiment pratiquement quoi, à cette question, vous verrez que si vous voulez rentrer dans le domaine, il vaut mieux bien connaître le problème Frege-Gitsch que d'y aller avec vos intuitions. Hein. Vous avez plus de chances de vous faire reconnaître en méta-éthique. Mais en revanche, en éthique normative, la situation n'est pas du tout similaire et vraiment les intuitions semblent jouer un rôle très important. On a l'impression qu'il y a un principe d'épistémologie générale qui guide un peu nos réflexions en éthique normative et qui dirait un peu comme en science on dit les hypothèses systématiquement contredites par les faits doivent être rejetées, il y aurait un principe d'épistémologie morale qui serait plus spécifique et qui dirait les principes systématiquement contredits par nos intuitions morales doivent être rejetés. Et c'est au nom de ce dernier principe, par exemple, que l'utilitarisme est supposé avoir été réfuté depuis longtemps. En effet, de nombreuses expériences de pensée semblent montrer que les principes utilitaristes sont contre-intuitifs. Les expériences de pensée ont même été inventées spécialement pour montrer que l'utilitarisme était contre-intuitif. Je pense en particulier aux histoires qui sont proposées par Robert Nozick, qui nous demande s'il serait moralement permissible de pendre un innocent pour calmer une foule déchaînée, ou s'il serait juste d'attribuer à une sorte de monstre d'utilité tous les biens de la planète, parce qu'il serait établi que cette personne profiterait plus de ses biens que toutes les autres personnes réunies. Bon, alors évidemment, on se demande comment l'utilitarisme a pu résister à ce genre d'attaque. Est-ce que c'est parce que les gens qui s'intéressent à l'éthique normative sont particulièrement idiots? Non, en fait, c'est parce que les utilitaristes mobilisent des intuitions aussi pour eux. En fait, ils en ont d'autres qui marchent très bien, comme par exemple, ils disent « Ah bon, c'est vrai, pour calmer une foule, mais par exemple, si jamais il y avait la vie de 500 000 personnes en jeu, et qu'en torturant légèrement quelqu'un, est-ce que ça serait pas mal de le faire ?» Pensez à Jacques Bauer, par exemple. Et donc, ils ont aussi leurs intuitions. Et David Kopp a trouvé les mots justes, je crois, pour décrire ce genre de situation épistémologique. Il a fait observer que les philosophes politiques et moraux considèrent que leur théorie morale, que des théories morales sont douteuses si elles contredisent des intuitions. Et ils ont tendance à mobiliser des intuitions dans l'élaboration et la défense de leurs propres théories. Et bien donc la question qui se pose, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une intuition, et s'il est vrai qu'une intuition peut nous permettre de départager des théories, et c'est cette question que je vais essayer de répondre en disant que non, les intuitions morales ne peuvent pas jouer ce rôle épistémologique, elles peuvent peut-être en jouer d'autres, mais elles ne peuvent pas remplir celui-là. Alors qu'est-ce qu'une intuition morale? Je vais donner deux critères simplement pour les définir et pour distinguer peut-être le sens que je donne à l'intuition, qui est un peu différent du sens qu'il a dans ce qu'on appelle les théories intuitionnistes, comme celle de David Ross, etc. C'est plutôt un sens psychologique. Les intuitions morales sont des réactions spontanées d'approbation ou de désapprobation qui peuvent s'exprimer de façon très élémentaire par des exclamations, des interjections comme « poids »,« super », de façon encore plus élémentaire par un mouvement d'attraction ou de répulsion du corps, ou par l'expression d'une notion de joie ou de dégoût, entre autres. Alors, ce qui est important du point de vue formel, les intuitions morales sont des réactions spontanées d'approbation, de désapprobation à l'écart d'une action, d'un état de choses qui n'ont pas nécessairement, si vous voulez, une forme verbale ou un format conceptuel ou propositionnel. Ça peut être juste une réaction spontanée de ce genre. Et les intuitions morales ne sont pas dérivées d'autres croyances morales par une chaîne de raisonnement. En d'autres mots, elles ne sont pas inférentielles, et c'est ce qui pourrait expliquer la rapidité de réaction qui les caractérise. Bon, voilà vraiment une première approximation. On peut ajouter que les intuitions morales sont caractérisées ainsi, peuvent porter sur des types d'actions. Par exemple, est-ce qu'il est moralement permis de mentir, de se mentir à soi-même, je sais pas, ou de sacrifier un innocent, ou sur des actions particulières, est-ce qu'il est moralement permis, enfin, comme dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, de pendre une personne innocente pour éviter un massacre dans une ville. Mais les intuitions peuvent aussi porter sur des principes moraux ultimes, comme est-ce qu'il est permis moralement de traiter une personne humaine comme un simple moyen, bon, le principe kantien, est-ce qu'il faut toujours viser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Alors, dans les ateliers de l'éthique, vous avez vu qu'il y a deux textes qui sont un peu, enfin, si vous êtes intéressé à cet excellent journal, vous avez pu voir que Joseph Heath présentait aussi quelque chose sur les intuitions. Et au fond, le texte que j'ai rédigé, c'était un deuxième texte. J'en avais envoyé un qui était pas très bien. Non. Et puis ensuite, j'ai lu celui de Joseph, j'étais en désaccord avec lui, donc j'en ai écrit un autre, et qui est donc plutôt une sorte de contrepoint à ce qu'il a écrit. Alors, Joseph Heath considère, comme moi, que les intuitions n'ont pas d'avenir. Enfin, le créum a un avenir, mais pas les intuitions morales. Et donc, pourquoi ? Parce que pour lui, les intuitions morales ne sont pas fiables. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que veut dire la fiabilité. Et mon argument à moi, c'est que les intuitions morales n'ont pas d'avenir, non pas parce qu'elles ne sont pas fiables empiriquement, mais simplement parce qu'elles souffrent d'un déficit conceptuel. Elles ne sont pas suffisamment indépendantes des théories qu'elles sont censées confirmer ou réfuter. Alors, qu'est-ce que c'est que la fiabilité ? À chaque fois qu'on parle d'intuition aujourd'hui, on met en évidence, par exemple, ce qu'on appelle des effets de cadrage. On peut préférer une proposition à une autre alors qu'elles ont exactement le même sens, tout simplement parce qu'elles ne sont pas présentées de la même manière. Alors, les meilleurs exemples dans la littérature ne font pas référence à des intuitions morales, mais leur leçon peut être étendue aux intuitions morales. Supposons, par exemple, qu'on soit confronté à une grave épidémie. Alors, si on la laisse se développer, 600 personnes vont certainement mourir. Et alors donc, on peut mettre en œuvre plusieurs politiques pour sauver un certain nombre. Et on présente ces politiques à des gens pour savoir quelle est celle qu'ils préféreraient. Alors on dit, par exemple, une des politiques va permettre de sauver 200 personnes, alors que l'autre va laisser mourir 400. Bon, c'est exactement la même. Mais en général, les gens préféreront toujours la politique qui permet de sauver 200 personnes, ce qu'on appelle un effet de cadrage. Les enquêtes empiriques montrent que nos réactions spontanées à un dilemme moral ou non moral peuvent être fortement influencées par la forme de ces présentations, même par les mots qui sont utilisés. Par exemple, si on dit, si dans la question qu'on a posée, des mots comme « sauver » sont plus saillants que « laisser mourir », par exemple, même si le contenu est exactement le même, on va toujours préférer dire « bon, moi je préfère la proposition à laquelle on sauve quelqu'un, etc. » Alors, bon, la référence à ces données empiriques, bon, il y en a des tas sur les effets de cadrage, c'est ce que j'appelle l'objection standard à l'appel aux intuitions dans la justification des théories morales. Et c'est pas du tout mon objection, elle n'est pas empirique, elle est conceptuelle. Elle dit que si les intuitions ne peuvent pas servir à justifier les théories, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas fiables, mais c'est donc parce qu'elles ne sont pas suffisamment indépendantes conceptuellement des théories. Et pour essayer d'expliquer ça de façon un peu plus claire, parce que ce n'est pas difficile, même si c'est de l'étude fondamentale, je vais faire avec vous un peu de tramwayologie. C'est difficile. Non, mais je pensais que tu plaisantais. Donc, comme vous savez, il y a vraiment un corpus énorme maintenant d'enquêtes et d'analyses sur cette expérience de pensée. Enfin, c'est une expérience qui a été à l'origine inventée par Philippe Pafoute il y a plus de 50 ans. Elle a eu un bel avenir, enfin, pendant ce moment-là. Et donc, bon, certains disent que c'est une littérature qui est extrêmement importante, mais par son volume seulement, pas du tout son contenu. Alors bon, c'est vrai qu'on a l'impression un peu que en traméologie, les bénéfices sont un peu maigres par rapport aux investissements. Ça, je suis d'accord. Mais je pense pas non plus qu'ils sont complètement nuls. Et bon, on peut dire que c'est nul pour le plaisir de se moquer, mais on aime bien faire ça en philosophie en général. Et on aime bien aussi aujourd'hui, c'est un jeu de se moquer de la philosophie morale expérimentale aussi. C'est un plaisir que je comprends très bien. Mais donc, bon, je pense que c'est toujours un peu exagéré, il y a des choses qu'on peut retirer quand même de cette histoire. Donc je rappelais, alors je sais que comme vous êtes enseignant, vous avez dû les raconter tant de fois, ça va être un peu pénible, bon, ça va passer rapidement. Alors, donc, il y a deux, ce qui m'intéresse dans ce genre d'expérience de pensée, c'est lorsqu'elles sont présentées par couple, hein, c'est pas toujours le cas. Et là, le couple qui m'intéresse, c'est celui qui avait été mis en évidence par Judy Thompson, c'est détourner le tramway et pousser le gros homme. Alors, j'ai beaucoup de mal à prononcer ça, je dis bonshomme, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut dire bonhomme, le gros bonhomme. Alors, vous voyez un tramway dont les freins ont lâché, ils foncent vers 5 traminots qui travaillent sur une voie étroite dans un vallon encaissé. Alors, ils n'ont aucun moyen de se mettre à l'abri. Si le tramway n'est pas arrêté ou détourné, ils seront inévitablement écrasés et tués. Par chance, vous êtes juste à côté d'un aiguillage qui permettrait de détourner le tram sur une voie secondaire avant qu'il n'écrase les 5 traminots. Par malchance, alors vous levez, ah mince, il y a un autre tramino sur la voie secondaire. Si vous actionnez l'aiguillage, il sera inévitablement écrasé ou tué. Que faire? Est-il moralement permis de détourner le tramway? Alors ce qui est intéressant, évidemment, il faut vraiment penser l'expérience de pensée comme une expérience de pensée, pas se dire, mais c'est complètement absurde, ils auraient pu même se plaquer contre le mur, c'est ce qu'on en entend souvent. Mais c'est très difficile à faire comprendre aux gens ce genre d'expérience. Par exemple, on peut dire à des gens, les ours, quelle est la couleur des ours qui sont sur la banquise, sachant qu'ils prennent la couleur de leur environnement? Alors, donc les gens disent parfois, je ne suis jamais allé sur la banquise, donc je ne peux pas répondre. Ça arrive souvent quand on pose ce genre de choses. La première réaction, ça veut dire que ce n'est pas possible. Et c'est encore pire pour le deuxième cas, c'est vous vous trouvez sur un pont piétonné, et alors vous voyez sur la voie en contrebas le tramway, hein, le même qui fonce à toute allure, et de l'autre côté du pont, il y a 5 traminots qui travaillent sur la voie. Alors vous comprenez tout de suite que le tramway ne pourra pas s'arrêter. Alors vous avez assez de connaissances en physique pour savoir que si vous jetez un objet massif à ce moment-là, donc entre le tramway et le tramino, le tramway va s'arrêter inévitablement. Alors là, par exemple, vous aurez sans doute des gens, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, vous savez aussi que vous n'avez pas le volume ou le poids nécessaire. Par exemple, c'est ce que je penserais de moi-même si je le faisais. Alors, et donc, vous pouvez pas vous sacrifier, c'est ce qu'il aurait fallu faire, évidemment. Donc, et puis, vous voyez juste à côté de vous, évidemment, un gros bonhomme, et donc qui semble remplir les conditions physiques nécessaires. Alors, évidemment, en plus, il se penche, ça c'est pour l'histoire, sur le parapet, et même il a peut-être soulevé une des jambes, alors ce sera très facile de le pousser. Et donc il suffirait d'une poussée sur ce bonhomme pour le faire basculer sur la voie. Alors est-ce qu'il est moralement permis de le pousser? Et l'intérêt, évidemment, c'est que les gens vont répondre massivement, oui, on peut détourner le tramway, non, on ne peut pas pousser le bonhomme. Une vaste enquête sur Internet qui a été construite à partir de cette expérience de pensée pour éviter, entre autres, c'est des philosophes si ce n'était pas simplement les opinions des philosophes du département de philosophie, simplement qui considéraient qu'on ne pouvait pas pousser le gros homme et qu'on pouvait détourner le tramway. Donc, ils ont fait cette enquête sur une assez vaste échelle. Par une équipe de psychologues dirigée par Marc Ozer. Alors, à chaque fois que je rappelle son nom, on me dit qu'il est en train d'être poursuivi par l'université pour falsification de résultats. Donc, alors, prenez ça aussi comme une expérience de pensée. C'est vraiment... Alors, donc, les résultats ont été publiés en 2007 et ils sont en harmonie avec les intuitions de Thompson et de ses collègues. 89% de l'ensemble des personnes ayant participé à l'expérience jugent qu'il est moralement permis de détourner le tramway vers la voie secondaire où se trouve un tramino, en causant ainsi vraiment sa mort. Et il n'y a que 11%, qu'on aimerait bien connaître d'ailleurs, seulement des gens qui jugent qu'il est moralement permis de pousser le gros homme sur la voie en causant délibérément sa mort. Dans les deux cas, il n'y a pas de variation significative selon l'âge, la religion, le sexe, la culture, le niveau d'éducation et même la connaissance de la philosophie morale. Ça, c'est un point assez important. Si on en fait de l'éthique fondamentale, ils auront tendance aussi à répondre de la même manière. Mais en dépit de l'unanimité des réponses recueillies, elle reste, enfin à mon avis, énigmatique. Quand on pousse le gros homme, on ne fait rien d'autre, en effet, que causer la mort d'une personne pour sauver la vie de cinq autres, c'est-à-dire exactement la même chose que lorsqu'on détourne délibérément le tramway fou sur la voie secondaire où se trouve une personne. Juger qu'il y a une différence morale significative entre les deux, ça demande une justification supplémentaire, parce que si on la prend comme ça, ça a l'air un peu irrationnel au fond. Donc, les chercheurs, les psychologues, les sociologues, les spécialistes des neurosciences, qui sont, comme vous le savez, des personnes très charitables, qui croient dans la rationalité des personnes, se sont dit non, il faut qu'on trouve une logique dans ces deux jugements, il faut essayer de comprendre qu'ils ne sont pas contradictoires. Et donc, ils ont essayé d'inventer l'interprétation de ces deux résultats telle qu'elle montrerait que les gens ne se sont pas contredits en disant qu'on pouvait à la fois détourner le tramway et ne pas pousser le gros homme. Mais alors, ils ont utilisé de façon un peu naïve les trois grandes théories morales. Donc là, j'ai fait une espèce de reconstruction de leur argument dans les termes des théories déontologistes, conséquentialistes et arrêtistes, c'est-à-dire inspirées par l'éthique des vertus d'Aristote. Alors, que donnerait l'interprétation déontologiste qui essayerait donc de trouver une cohérence dans ces deux jugements? Eh bien, on dirait les gens appliquent spontanément le principe déontologiste de ne pas traiter une personne comme un simple moyen. Et c'est pourquoi ils jugent moralement permissible de détourner le tramway et normalement inadmissible de pousser le gros homme. Dans le premier cas, on ne se sert pas du tramino qui se trouve bloqué sur la voie d'évitement comme un simple moyen d'arrêter le tram. Sa mort est un effet collatéral, non voulu, de l'action visant à détourner le tram. Mais dans le deuxième cas, on se sert vraiment de lui comme un objet, on s'en sert comme d'un moyen, et donc nous avons une réserve kantienne, disons, à l'égard de cet acte, et voilà comment on explique la cohérence de ces deux jugements. Mais le conséquentialiste n'est pas du tout d'accord, il dit « mais non, c'est pas ça la cohérence ». Et il donne une autre cohérence de ces deux jugements, il dit « si c'était la partie rationnelle de notre esprit qui avait toujours le dernier mot, nous jugerions les deux cas exactement de la même manière, étant donné que les conséquences sont les mêmes ». Mais nous sommes exposés à des conflits intérieurs entre les deux parties de notre esprit. Hein. On a une partie rationnelle, une partie irrationnelle, et c'est la partie irrationnelle qui parfois l'emporte en introduisant des considérations appelées déontologistes. Notre esprit contiendra en effet deux systèmes. L'un serait rationnel et l'autre serait émotionnel ou affectif. Et à l'aide de l'imagerie médicale, Joshua Green a cru pouvoir établir que lorsqu'on confronte une personne à des actions impersonnelles, donc qui n'impliquent pas de contact physique direct, comme détourner le tramway, le seul système qui est activé est le système rationnel. C'est lui qui nous ferait juger qu'il est permis moralement de détourner le tramway. Mais lorsqu'on le confronte, que cette même personne est confrontée à une action personnelle qui implique un contact physique violent direct, comme pousser le gros homme, le système émotionnel s'agite d'un coup et finit par inhiber la réaction rationnelle qui devrait nous faire juger qu'il est permis moralement de pousser le gros homme. Après tout, c'est pas pire que détourner le tramway. Et selon Green, ce conflit a pour origine l'histoire de notre espèce. Nous réagissons émotionnellement au contact physique violent personnel parce que nous vivions autrefois, c'est toujours comme ça dans les histoires évolutionnaires, autrefois dans des petites communautés qui ne disposaient pas de tramway. Donc, et d'autres armes sophistiquées. Donc, pour tuer quelqu'un, il fallait vraiment l'étrangler, lui donner un coup de massue, etc. Donc, nous avons eu des réactions négatives à l'égard de ce genre d'agression. Mais disons, il y a très très longtemps, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas d'avions. Et donc, ça nous fait un certain effort. On trouve que ce n'est pas la même chose de tuer quelqu'un en lui envoyant une bombe ou en lui envoyant un coup de massue sur la tête. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne savons pas rationnellement que les deux sortes de dommages sont aussi condamnables et ont exactement la même valeur morale, mais simplement, là, il y a une différence plutôt dans nos réactions psychologiques qui sont intégrées dans notre équipement à la naissance. Et enfin, la dernière interprétation que j'appelle arrêtiste, ou selon l'éthique des vertus. Alors, pour l'arrêtiste, ce qui est pertinent moralement, ce n'est pas la nature de l'acte ou ses conséquences, mais le genre de personne qu'on est ou le caractère qu'on exprime. Alors, même si l'action, supposons que l'action soit la même et que l'intention soit la même et les conséquences sont les mêmes, eh bien, quand même, c'est pas le même genre de personne qui peut faire les deux actes. Alors, par exemple, vous vous demandez, est-ce que vous aimeriez dîner avec quelqu'un qui viendra vous dire, écoutez, j'ai poussé quelqu'un cet après-midi, bon, il était un un peu gros pour arrêter un train, vous aurez peut-être une certaine inquiétude, mais si quelqu'un vous dit j'étais dans un dilemme incroyable, je ne savais pas quoi faire, puis bon, il fallait détourner le tramway, alors j'ai actionné l'écuyage, bon, viens manger chez moi, c'est pas si grave, mais moi j'aurais fait ça. Enfin, l'idée, c'est qu'il faut être un certain genre de personne pour être capable de pousser quelqu'un d'un pont piétonnier, même si on sait qu'on va sauver d'autres personnes, même si on sait que du point de vue des conséquences, ça serait bien, on n'est pas toujours un genre de personne qui est capable de faire ça. Donc la différence, elle porterait sur le genre de personne qu'on est dans les deux cas, et c'est pourquoi nous aurions tendance à dire, dans le premier cas, la personne n'est pas une personne mauvaise, dans le deuxième, on aurait, disons, un soupçon sur sa qualité en tant que bonne personne, au moins. Alors, donc on a trois interprétations différentes des intuitions, qui sont aussi charitables, hein, bon, puisqu'elles elles essayent d'établir une cohérence dans ces deux jugements qui pourraient sembler ne pas l'être, cohérents, et puis elles sont aussi plausibles dans l'état actuel de la discussion. Elles sont inspirées par des théories morales différentes, qui donnent chacune une cohérence différente à la paire de jugements spontanés. Alors bon, je ne vais pas du tout proposer, il y a un tas d'autres interprétations en termes de droit, etc. Mais je ne vais pas proposer une autre interprétation, dire qu'il y a une des trois qui est mauvaise pour tel ou tel argument. Je vais simplement essayer de montrer comment elles peuvent coexister, en fait, et comprendre que le problème qu'elle me pose à moi, c'est plutôt la différence entre l'intuition morale, sa justification et son interprétation philosophique. Alors, si vous voulez, c'est un peu la seule contribution que j'essaie de faire à cette discussion, plutôt que de trouver une autre interprétation de ces deux actes. Donc je voudrais distinguer les trois. Alors qu'est-ce que l'intuition ? Eh bien, c'est tout simplement le fait brut que les gens ont tendance à répondre spontanément oui à la question « est-il moralement permis de détourner le tramway ?» et non à la question « est-il moralement permis de pousser le gros homme ?» C'est tout, c'est un peu comme si on appuyait sur quelque chose, c'est ça l'intuition. Hein. Elle a pas d'autre contenu. Qu'est-ce que la justification ? Ce sont les réponses qui sont données par les sujets d'enquête aux chercheurs qui leur demandent de justifier leurs réponses spontanées. Là, je suis passé un peu vite, mais en fait, dans l'enquête de Hauser, on demandait aux gens de justifier pourquoi ils avaient répondu oui dans le premier cas et non dans le second. Mais souvent, les gens disaient « je sais pas pourquoi », ou alors disaient des trucs un peu idiots dans le genre « bon, je vais pas prendre pour Dieu et décider de ce qui doit se passer ». Mais certains disaient des choses qui se rapprochaient de conceptions plus philosophiques, c'était de dire « c'est pas la même chose de détourner une menace sur les 5 traminos, de créer une nouvelle menace sur le gros homme ». C'est une explication plus sophistiquée, mais qu'on retrouvait dans les justifications qui étaient données par les répondants quand on les interrogeait. Et maintenant, j'en viens au troisième point, qui est celui qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation ? Eh bien, ce sont les explications des deux précédents, c'est-à-dire de l'intuition et de la justification, qui sont proposées par les psychologues, les philosophes. Et c'est le genre d'interprétation qui a ce format-là. Les gens appliquent spontanément le principe de ne pas traiter une personne comme un simple moyen. Je vous l'ai rappelé, bon, ça s'appelle ça une interprétation. Ou bien les réactions émotionnelles irrationnelles inhibent les jugements conséquentialistes. Ou bien on a tendance à penser qu'un individu capable de pousser un homme d'un pont piétonnier n'est pas un type bien. Voilà, ça, j'appelle ça une interprétation. Alors on change complètement de perspective hein, quand on passe des intuitions aux justifications, aux interprétations. En fait, on passe du regard de l'agent à celui de l'interprète. Lorsque les psychologues ou des philosophes disent que les gens ont des intuitions déontologistes ou conséquentialistes, à mon avis, c'est une façon extrêmement maladroite, je dirais même abusive de s'exprimer. L'intuition, il n'est pas permis de moralement de pousser le gros homme, mais c'est un fait brut au fond. Il n'est pas déontologiste, il n'est pas conséquentialiste, il ne nous est pas livré avec son interprétation dessus. C'est l'interprétation des philosophes ou des psychologues qui permet de coller l'étiquette déontologiste ou conséquentialiste. Si un Kantien dit « la réponse spontanée, il n'est pas permis moralement de pousser le gros homme » est une intuition déontologiste, à mon avis, c'est un abus de langage. Il devrait dire « mon interprétation de l'intuition est déontologiste ». Si un conséquentialiste vous dit « la réponse spontanée n'est pas permis moralement de pousser le gros homme » montre bien que nos intuitions sont conséquentialistes sur cette question, eh bien il faut lui dire « mais non, c'est pas l'intuition hein, qui est conséquentialiste, c'est ton interprétation de l'intuition qui est conséquentialiste ». Donc, si vous voulez, mon argument est très simple. Il consiste à demander de ne pas confondre l'intuition et son interprétation pour commencer. Mais si on respecte cette distinction, ça pose un problème à ceux qui voudraient justifier des conceptions morales ou réfuter une conception morale en faisant appel aux intuitions. Pour que les intuitions puissent acquérir une fonction épistémologique de réfutation et de justification de théorie, il faut les interpréter. Mais le déontologiste peut parfaitement interpréter la perte de jugement. Il est moralement permis de détourner le tramway, il n'est pas permis de pousser le gros homme dans un sens qui va lui permettre d'affirmer, au fond, qu'elle conforte le déontologisme et qu'elle rejette le conséquentialisme. Et alors le conséquentialiste va dire, mais non, ces deux jugements confortent mon interprétation, elles confortent le conséquentialisme et elles réfutent le déontologisme. Et évidemment, la même chose pour l'arrêtiste. Donc, si vous voulez, c'est tout simplement ça mon argument. Étant donné que les interprétations peuvent aller dans le sens de toutes les théories, je ne vois pas très bien comment elles pourraient aider à réfuter ou à confirmer l'une des théories. Donc, pour résumer rapidement, il existe deux raisons différentes, au moins, de douter de l'avenir des intuitions morales en tant que critère de sélection des théories. L'une, c'est le manque de fiabilité, donc c'est l'argument qui est développé par Joseph dans l'article, et l'autre, c'est leur manque d'indépendance à l'égard des théories, donc c'est celui que j'ai essayé de développer vraiment très très rapidement devant vous. Et je voudrais juste faire une petite conclusion avant de conclure. Si vous voulez nier que les intuitions... qu'est-ce que j'ai dit ? Conclusion avant de conclure, oui, c'est pas bien. J'ai hâte que ça se finisse. Alors, nier que les intuitions puissent... Nier que les intuitions puissent jouer un rôle dans la réfutation ou la confirmation des théories ne veut pas dire qu'on ne reconnaît aucun rôle épistémologique. Personnellement, tout en restant sceptique sur leur fonction de réfutation et de confirmation des théories morales, je n'ai aucune difficulté à admettre l'importance des intuitions dans la formation des théories morales. J'admets en effet la division de Popper entre logique de la découverte et logique de la preuve. La première, qui sert à former des hypothèses, est souple. Elle n'est pas regardante sur la provenance des idées. Donc, à mon avis, elle peut faire appel à des intuitions. Si vous voulez construire une théorie, une déontologiste ou autre, prenez toutes les intuitions que vous voulez, ça n'a pas d'importance, inventez-en aussi. En revanche, dans la logique de la découverte, là, les procédures de vérification et de réfutation sont beaucoup plus strictes. Et là, je crois que les intuitions ne peuvent pas remplir ce rôle de réfutation, de confirmation. Voilà.
Merci Ruben. Et on...